Bonjour à chacun. Avant d'ouvrir la parole, quoique vous pouvez ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse au chapitre 22, pendant que vous cherchez le texte, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui a été beaucoup peiné ce matin, qui n'a pas de prophétie. Ouais. Écoutez bien. Dieu veut lui parler certainement de cette façon. Écoutez bien, il y a quelqu'un dans l'église ce matin qui voulait une parole de Dieu. Écoutez-moi bien, c'est sérieux. Peut-être que Dieu a voulu que je le donne de cette façon-là. Écoutez bien. C'est quelqu'un qui aspire à servir le Seigneur. Quelqu'un qui vraiment voudrait même être sur l'estrade. Ce n'est pas interdit. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Laissez-moi vous dire que si Dieu vous veut sur l'estrade, personne sur la terre ne pourra empêcher Dieu de vous y mettre. Personne. Si Dieu veut vous y mettre, personne. Et je sais de quoi je parle, puisqu'il y a un frère à qui Dieu m'a demandé de faire prêcher, et que moi je peux vous dire, j'ai souvent pensé, j'ai dit, mais ce n'est pas avec moi qui montera sur l'estrade. Voyez un petit peu. Mais cette personne, elle doit savoir que déjà Dieu lui a parlé, et déjà Dieu lui a demandé certaines choses. Alors c'est peut-être pour un homme, c'est peut-être pour deux, je ne sais rien, mais je sais que c'est vrai. Il y a un homme que Dieu a placé ici, que Dieu veut former ici, qu'il a sa place ici, qu'il faut qu'il s'engage à être fidèle dans les petites choses. Écoutez-moi, je sais que c'était comme une prophétie qu'il fallait que je donne de cette façon. Mais je vous le répète, si Dieu vous veut ici, personne ne pourra empêcher que vous y soyez. Mais commencez à faire ce que Dieu vous demande. Faites-le. Voilà, c'est une prophétie. C'est dit différemment, mais enfin, c'en est une. Prenez au sérieux ces choses. Si Dieu vous a parlé, vous qui avez, parce que cette personne a beaucoup souffert de vouloir servir Dieu. C'est bien. Mais comme je l'ai dit avant le culte, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on aspire que ça va se faire. Il faut payer le prix pour être un serviteur de Dieu, croyez-moi. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Est-ce que vous avez retenu dans le Nouveau Testament tous les textes qui parlent des récompenses et des rétributions? Il y en a. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Il y en a parce qu'on en a besoin d'ailleurs. On en a besoin. Quelqu'un me dit, oh monsieur Gaud, on n'a pas besoin d'entendre sur les récompenses, ça ne sert à rien, c'est de l'orgueil. Écoutez, moi je crois que c'est bien de temps en temps que l'on soit encouragé par rapport à, si Dieu en parle, de toute façon c'est qu'on en a besoin, oui ou non? Des fois, il y a des choses, on aimerait, mais on n'en a pas besoin. Si elles ne sont pas dans la Bible, c'est qu'on n'en a pas besoin. Mais si Dieu parle régulièrement des récompenses et de la rétribution, c'est parce qu'on a besoin d'entendre parler de ces choses. Amen. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Juste un petit mot sur l'expression « je viens bientôt ». Vous savez que Jésus dit souvent « je viens bientôt ». Les détracteurs se sont fait des gorges chaudes de ces trois mots en disant « oui, ça fait 2000 ans que Jésus a dit cela, mais il ne faut pas oublier que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour ». Bon, bien sûr, les gens qui ne sont pas convertis ont du mal à comprendre cette façon de parler. Mais quand Jésus a dit « je viens bientôt », vous comprenez bien que pour lui, quand il l'a dit, ça fait 2 jours qu'il l'a dit. Donc c'est vrai. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui se moquent. Oui, Jésus a dit ça, ça fait 2000 ans, ça ne tient pas debout. Mes frères et sœurs, quand Jésus a dit « je viens bientôt », ça veut dire qu'il viendra bientôt et que vous pouvez vous attendre à ce qu'il vienne. Alors, quand on lit un verset comme celui-ci, on pourrait lire 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, il y a des versets qui nous font réfléchir. C'est le but. Le but de chaque prédication, bien sûr, nous venons de louer Dieu, nous venons de prendre la Sainte Cène, nous venons de nous entretenir. Tout à l'heure, nous aurons la communion fraternelle. Est-ce que c'est important, la communion fraternelle? C'est important pour vous? Ben oui, c'est important. Mais Dieu veut nous parler par rapport à cette affaire du ce jour où on passera devant lui. Est-ce que vous y pensez? Souvent, quand je suis en ville, que je vois toute cette flopée de gens, je me dis, oh, que je pense que tous les gens passeront devant Dieu. Est-ce que vous y pensez? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il y a des textes qui doivent nous faire réfléchir. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et on va lire à partir du verset 9. Il est parlé de, le titre, moi, dans ma version, c'est le service chrétien et sa récompense. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Amen. On peut lire la suite, mais enfin, ce texte nous indique qu'il y a deux façons de travailler et qu'un chrétien doit prendre garde à la façon dont il travaille. Donc un chrétien doit déjà se poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ? C'est une question que nous devons tous nous poser. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est important que je sois dans la volonté de Dieu ? Et pourquoi c'est important que je sois dans la volonté de Dieu ? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner, par exemple, deux ou trois raisons pour lesquelles c'est important d'être dans la volonté de Dieu ? Première raison, pour être heureux. Parfois, les évangélistes, ils le font, c'est bien, ils disent, venez à Jésus et vous serez heureux. On l'entend ça dans les réunions d'évangélisation. Bon, ici, vous êtes plus habitué à l'exhortation qu'à l'évangélisation. Mais quand même, on entend les évangélistes dans les rassemblements, dans les grandes foules, venez à Jésus et vous serez heureux. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, mais qui ne sont pas heureux, parce qu'ils acceptent Jésus, mais ils ne découvrent pas quelle est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux, alors qu'on sait très bien que le seul qui peut nous rendre heureux, c'est le Seigneur. Et une des raisons pour laquelle il faut connaître la volonté de Dieu, c'est ça. Je serai heureux, vous le savez, Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Il y a des chrétiens qui sont frustrés, des chrétiens qui sont malheureux, vraiment. Et ils aiment le Seigneur, et ils ne comprennent pas. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de découvrir quelle était la volonté de Dieu pour eux. C'est certainement une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Ils ont dit, si c'est ça être chrétien, c'est pas aller à l'église et s'asseoir sur un banc qui est d'être chrétien. Être chrétien, c'est découvrir quelle est la volonté de Dieu. La deuxième raison, c'est parce que c'est important que l'on sache, comme disait Jérémie dans les annonces, c'est que l'on sache chacun ce qu'on a à faire dans l'église. Vous voyez cette parole que j'ai donnée à un frère qui vraiment souffre. C'est pour ça qu'on ne peut pas rire avec certaines choses. Qui veut vraiment, peut-être, monter sur l'estrade. Mais moi, je peux vous dire que si, moi, je bénis Dieu pour celui qui me remplacera. Parce qu'après tout, c'est ce que l'on veut. C'est pas vrai ? Vous voulez pas qu'on me remplace ? Non ? Mais pas demain. Mais est-ce que c'est important d'y préparer ? Peut-être sera Clément. Hein ? Est-ce que c'est important de veiller à la transmission ? Mais oui, c'est important tout ça. Donc, le gars qui devrait me remplacer, ça serait bien qu'il le sache. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'il soit formé et qu'il le sache. Est-ce que c'est important de trouver sa place dans l'église ? Est-ce que vous savez tous, est-ce que vous pourriez vous lever et dire, oui, ma place dans l'église, c'est de faire ça ? Et vous devriez tous pouvoir le dire. Si vous ne le savez pas, ça ne va pas. Alors, Dieu va vous aider. Ce sont des choses pour lesquelles vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Mais nous devrions tous pouvoir nous lever et dire, voilà, moi, je sais que Dieu m'appelle à m'occuper des ados, Dieu m'appelle à m'occuper des enfants, Dieu m'appelle à m'occuper, à visiter les personnes âgées, Dieu m'appelle à la formation. Moi, je bénis Dieu quand je vois tous ces frères et ces sœurs qui viennent à la formation pour être diacres et diaconesses. Moi, ça me réjouit parce qu'on sent une aspiration qui nécessite une formation. Mais ça, c'est une des raisons pour laquelle chacun devrait rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Et quel que soit votre âge. À partir du moment où vous avez pris le baptême, que vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous avez tous, ou alors vous n'êtes pas passé par la nouvelle naissance, mais si vous êtes passé par la nouvelle naissance, vous avez tous à cœur de faire quelque chose. Et la troisième raison, je ne prends que trois bien sûr, mais c'est pour le jour où nous allons passer devant Dieu. Parce que c'est quand même un jour sérieux, ce jour où on va passer devant le Seigneur. Vous y pensez parfois ? Est-ce que vous y pensez ? Alors je vais reposer la question. Est-ce que vous pensez à la mort ? Est-ce que ça vous arrive de penser à la mort au jour où vous allez partir ? Bon, ça c'est juste à poser cette affaire. Si vous pensez à la mort, vous devez également passer à ce jour où vous allez comparaître devant le Seigneur. Vous connaissez la parabole des talents. Qui ne connaît pas la parabole des talents ? Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas converti. Parce que quelqu'un qui est converti, est-ce qu'il a lu l'évangile de Matthieu ? Ben oui, c'est quelqu'un qui est converti, il a au moins lu quelques chapitres de l'évangile de Matthieu. Donc dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez tous cette parabole, c'est Jésus qui parle, il dit « il en sera », cette expression « il en sera », ça explique que ça sera exactement comme ça. Ça se passera de cette façon. Même si on dit « c'est une parabole », oui, c'est une parabole, mais c'est une parabole qui indique que l'on va tous comparaître devant Dieu. Cette parabole, il faut la prendre au sérieux, vous la connaissez, Matthieu 25, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. » Verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. » Ça se passe très bien pour le premier et le second, mais regardez pour le troisième. Le troisième, verset 24, « Celui qui n'en avait reçu qu'un, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » La conclusion, verset 30, est terrible. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Il s'adresse à des chrétiens. C'est un chrétien, un serviteur qui se retrouve dans les ténèbres du dehors. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais c'est une image. Écoutez-moi, ne soyons pas comme ces pasteurs de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament à qui Jésus a dit, vous tordez les paroles du Dieu vivant. Si le Seigneur dit qu'il y a des chrétiens qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans, ça veut simplement dire qu'un chrétien peut perdre son salut, non pas parce qu'il n'a pas servi, mais parce que le fait qu'il n'a pas servi prouve qu'il n'avait aucune communion avec Dieu. C'est important de le préciser. C'est Pierre qui le dit, les personnes ignorantes qui tordent les Écritures. Écoutez, si Jésus parle des pleurs et des grincements dedans pour des chrétiens, ça veut dire qu'un chrétien peut perdre le salut. Je vous ai déjà parlé de la sécurité éternelle. C'est un point de doctrine qui est en train de rentrer dans tous les mouvements évangéliques et protestants où on dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Écoutez, moi je le voudrais bien, mais ce n'est pas vrai. Un chrétien peut perdre le salut. Ce n'est pas quand même le sujet du message, le sujet d'aujourd'hui. Cette parabole, elle s'explique facilement. Nous sommes ses enfants et en même temps nous sommes ses serviteurs. Alors le disciple, le chrétien, doit comprendre qu'il est en relation avec Dieu de 4 façons. Pour beaucoup de chrétiens, superficiel, être chrétien, voilà, je suis chrétien, je suis son enfant, j'ai pris le baptême, je suis sauvé, point, je vais à l'église tous les dimanches, c'est merveilleux. Mais il y a 4 relations et je voudrais vous en parler pour vous parler des récompenses. La première, c'est cette dépendance, nous dépendons du Seigneur. Le deuxième, c'est le travail. Nous travaillons, il y a des œuvres à faire. La troisième, c'est la responsabilité. J'en ai parlé tout à l'heure pour les enfants. Dieu nous donne une responsabilité, par exemple celle de procréer. Dieu nous donne la responsabilité de faire des œuvres. Et la quatrième, c'est la rétribution. Il y a 4 relations et il faut que nous en parlions. Dans nos milieux, pentecôtistes, évangéliques, on a tellement peur de prêcher le salut par les œuvres qu'on en a fait disparaître les œuvres. Moi, j'ai même dit chrétien ici, qui me dit, Monsieur Gault, ce n'est pas la peine de prêcher sur les récompenses. Vous voyez, ici, pour vous dire à quel point nos mentalités ont été façonnées pour faire le contre-pied de l'Église catholique, où c'est vrai, ce n'est pas une critique, mais dans l'Église catholique, on vous enseignera que vous êtes sauvés par les œuvres. Vous le savez que c'est vrai, je résume, que personne ne soit blessé si je résume trop. Mais mes frères et sœurs, on n'est pas sauvés par les œuvres. Mais une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour des œuvres, pour faire des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Alors, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il ne faut pas en parler. Je crois que nous, les chrétiens, on doit quand même avoir assez d'intelligence et d'équilibre pour comprendre qu'on est sauvé par la grâce. Et Paul dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Regardez d'ailleurs dans l'Apocalypse. C'est un gros sujet, ça. Il y a des chrétiens, et je ne les blâme pas parce que peut-être j'aurais été pareil, ils ont été marqués par ça. Il y a des églises évangéliques, on ne parle jamais des récompenses. Et pourtant, les œuvres, il faut en parler. Apocalypse 14, verset 13. Regardez cette parole comme elle est merveilleuse. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais regardez ce que dit ce verset. Apocalypse 14, verset 13. « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, regardez la suite, car leurs œuvres les suivent. Donc, vous voyez, quand quelqu'un meurt, tout ce qu'il aura fait est avec lui. Alors, comment ça va comparaître devant Dieu, ça, on ne le sait pas exactement. Mais une chose est sûre, vous l'avez lu avec moi, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres nous suivent. Et il est hors de question de faire disparaître les œuvres parce que nous, on s'en fiche, nous, on est sauvés par grâce, par la foi. Il s'agit que j'ai un strapontin dans le ciel, moi, ce n'est pas grave. Si je suis assis au fond sur un strapontin, bon, c'est ridicule. Alors, ça... Il s'agit qu'on soit bien sûr. Moi, j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit, moi, monsieur Gauche, je ne veux pas être devant, en première place, à côté de Jésus. D'ailleurs, qui sait s'il y aura des strapontins dans le ciel? Vous voyez? Non, mais moi, je comprends l'état d'esprit. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que Dieu est juste en toutes choses. Et s'il nous parle des récompenses, il faut en parler. Donc, il y a une dépendance. Un chrétien, ce n'est pas qu'un enfant de Dieu. Un chrétien, il dépend du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer. Beaucoup de gens ne veulent pas. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de ce frère qui aspire à la charge d'évêque, mais il doit se mettre à dépendre du Seigneur, à vraiment dépendre de Dieu. Il y a une dépendance. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Est-ce que vous savez le prix auquel vous avez été acheté? Là, on ne peut pas comprendre cette expression, parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas des esclaves sur le marché. Mais à l'époque où ça a été écrit, Paul fait allusion aux esclaves que l'on vendait sur le marché. Alors vous alliez acheter un canard, vous alliez acheter une poule, c'était à peu près le même prix, à peu près. Mais un esclave, c'était vendu au celui qui offrait le plus. Et qui c'est qui nous a rachetés? C'est le Seigneur Jésus. Vous avez été rachetés à un grand prix, c'est une grâce d'avoir été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous appartenons plus. C'est écrit que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Et c'est là que ça commence à aller mal, c'est que beaucoup de chrétiens se contentent d'être des enfants de Dieu. Non, un chrétien est un enfant du Seigneur et un chrétien doit dépendre du Seigneur. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme elle devrait se faire. Les gens ne sont pas soucieux de dire « mais quelle est ta volonté ?» Quand on entend parler de drames dans les églises, je vais éviter d'en parler, mais c'est parce que les chrétiens n'ont pas pris le temps de comprendre quelle était la volonté de Dieu en ce qui les concernait. Et moi, je suis peiné de... Même moi, le premier, je soupire à vraiment faire ce que Dieu me demande. Et je sais ce que Dieu me demande, je le sais. Mais chacun d'entre nous, je le répète, nous devrions être capables de dire, mais à quoi Dieu m'appelle? Je suis bien dans cette église, bon, ben, c'est bien. Mais et même si vous n'étiez pas bien, est-ce que ça peut être la volonté de Dieu d'être dans une église? Dans une famille, est-ce qu'on peut être mal dans sa famille? Est-ce qu'on peut être mal dans sa famille? Ben oui, c'est pas pour ça qu'on quitte sa famille, hein. On reste dans sa famille. Et c'est, voyez, mais Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve dans tous les domaines. Il faut que nous le comprenions. Plus vite on l'a compris, plus vite on fait des progrès. Dieu nous éprouve dans tous les domaines. Il faut bien le comprendre, ça. Il y a des gens qui ont du mal avec l'épreuve, et c'est pour ça qu'ils ne font aucun progrès. Quand Paul dit aux Corinthiens, mais quand vous vous assemblez, c'est dommage, vous vous assemblez pour devenir pire. J'espère que ce n'est pas le cas. Non. Mais enfin, une chose est sûre, appartenir à Dieu, c'est une grâce. Louer le Seigneur dans une église, est-ce que c'est une grâce? Moi, j'ai vu des gens, oui, vous comprenez, il faut faire ci. J'ai dit, mais non, il ne faut pas. C'est une grâce de pouvoir le faire. Moi, je trouve que c'est une grâce d'être ici ce matin, de vous servir au travers de mon ministère. Pour moi, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une contrainte. Sincèrement, c'est une grâce de vous servir le plat de ce matin. Voilà, sur la récompense. Oui, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les disciples ne sont pas que des enfants de Dieu. Les disciples appartiennent au Seigneur. J'avance dans ma méditation sur les récompenses. J'espère que vous comprenez le cursus. Deuxièmement, la notion de travail et d'œuvre. Ce travail, ça doit être un plaisir de travailler pour Dieu. Les œuvres vont nous suivre quand on va passer devant Dieu. Je ne parle pas du salut. Le salut, c'est réglé pour les chrétiens. Je parle maintenant des œuvres. J'appartiens à Dieu, donc je deviens en vérité un adorateur et un serviteur. Vous rappelez ce que Jésus a répondu à Satan, Dieu a dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Le problème des pasteurs, c'est que souvent, nous, quand les gens découvrent l'évangile, ah, tu chantes bien, tu devrais venir à la chorale, tu es trésorier, ah, mais tu pourrais faire le prochain trésorier, etc., etc. Mais les gens, ils font les choses parce qu'on leur demande. Alors, c'est vrai que Dieu peut nous utiliser. Moi, ça m'est souvent arrivé de dire à quelqu'un, vous devriez peut-être essayer ceci. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là. Je n'ai jamais été voir le pasteur, dire, monsieur le pasteur, je voudrais faire ci, je voudrais m'occuper. On m'a tout le temps dit, est-ce que tu ne veux pas t'occuper des ados? Vous voyez, je l'ai fait, parce que bon, mais je pouvais le faire. Mais une chose est certaine, quand quelqu'un adore Dieu, il sait dans son cœur ce qu'il doit faire. C'est pour ça que Dieu dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont se passer devant, qui vont se trouver devant Dieu un jour. Ah mais je vous le dis, ils vont dire, moi aussi je fais des paraboles. Qu'est-ce que tu faisais pour moi? J'étais pasteur. T'es pasteur? Je t'ai jamais demandé d'être pasteur. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver ça dans le ciel? Mais je suis sûr que ça va arriver. Et d'autres, pourquoi t'es pas devenu pasteur? Mais les gens, ils ne le sauront pas. Mais ils seront passés à côté parce qu'ils n'auront pas pris le temps d'être adorateurs. Et je fais la grande différence, je l'ai fait avant le culte. L'adoration et la prière. Dans la prière, puisque Jésus a dit « ma maison est une maison de prière », on peut mettre toutes les formes de la façon dont on s'approche de Dieu. Quand on est dans le silence et qu'on contemple Dieu, la contemplation, est-ce que c'est biblique? C'est une prière? Oui. Je suis là dans le recueillement, je pense, je médite un verset, voilà. Je ne dis pas un mot, c'est une prière. Mais il y a des gens pour qui la prière, c'est un monologue avec Dieu. La prière, ça doit être aussi un temps où je fais silence et Dieu peut me mettre à cœur quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Mais il vous faut le réaliser, ces choses. Dieu nous laisse libres. C'est ça le paradoxe, c'est que d'un côté, nous sommes toujours libres. Dieu ne nous obligera pas. Mais il va nous indiquer une direction par le Saint-Esprit. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et il y a des gens, ils ne savent jamais rien, pour la simple unique raison qu'ils n'ont pas pris le temps de faire les choses par conviction. Moi, quand je vous ai dit qu'il y a 17 ans, j'ai failli arrêter le ministère. Mais c'était bon, parce que c'était difficile. Très, 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 très difficile, croyez-moi. Ce n'était pas la grâce qu'il y a ici, croyez-moi. Et heureusement que le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que je vois arrêter le ministère, et je vous assure, j'avais vraiment envie d'arrêter le ministère. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'était vraiment quelque chose de très grave pour moi. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de me tenir devant Dieu et de recevoir une parole du Seigneur? Mais bien sûr, pour moi en tous les cas. Peut-être pour vous, mais peut-être d'abord pour moi. Pourquoi? Mais parce que chacun d'entre nous devrions être sérieux. Peut-être, moi je connais une dame, oui, je donne cet exemple parce que c'est vraiment grave. Il y a une jeune fille qui m'appelait il y a 4 ou 5 ans. Elle m'appelle, elle me dit, voilà monsieur Gau, je suis dans une église, je suis responsable de la chorale, mais j'ai vraiment à cœur d'arrêter la chorale. J'ai vraiment à cœur d'arrêter. Pourquoi? Et parce que pour me tenir devant Dieu. J'ai dit, vous en avez parlé à votre pasteur? Il me dit, oui, mais il ne veut pas, il veut que je continue la chorale. J'ai dit, écoutez, vous êtes engagé, soyez fidèle jusqu'à l'été. Bon, je vais le faire. Elle a été fidèle jusqu'à l'été. Et après l'été, elle a arrêté la chorale. Et vraiment, elle s'est tenue devant Dieu. Elle s'est vraiment tenue devant Dieu. Et le Seigneur l'a amenée à une piété profonde. Elle a rencontré un jeune homme dans l'église qui avait cette même piété. Et aujourd'hui, ils sont pasteurs, tous les deux. Enfin, elle est l'épouse d'un pasteur. Quand je la vois en convention, je repense toujours à l'importance de savoir arrêter une activité, non pas pour buller, parce que les gens, ils arrêtent parce qu'ils sont découragés, bon, mais ça, on ne va pas non plus les juger, mais de s'arrêter pour chercher Dieu. Est-ce qu'elle a bien fait, cette jeune fille? Bien sûr, c'était important de diriger la chorale de l'Église, mais est-ce que c'est important d'être une bonne épouse pour un serviteur de Dieu? C'est ce à quoi Dieu l'a appelé. Je me rappelle, moi, de cette infirmière aussi qui avait perdu son boulot, qui était désemparée. Et elle m'a dit, oui, toutes choses concourent bien et je vais trouver un meilleur boulot, un meilleur salaire. J'ai dit, mais toutes choses concourent bien, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner davantage d'argent. Toutes choses concourent bien, ça veut dire peut-être que vous allez être infirmière à Ouagadougou. Elle m'a dit, j'avais pas pigé le truc. Eh bien, parce que les gens, vous voyez, concourir au bien, ce n'est pas forcément avoir plus d'argent. Mais est-ce que c'est bien qu'une jeune fille soit infirmière en Afrique pour sauver des centaines d'enfants? Vous voyez, les gens ne comprennent pas, peut-être que ça vient de nous les pasteurs, qu'on n'a pas suffisamment bien enseigné la parole de Dieu. Une chose est certaine, vous avez tous reçu un talent, tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée? Est-ce qu'on a tous reçu des talents? Oui, tous. Déjà la voix. Est-ce que c'est une grâce d'avoir la voix? C'est une bénédiction de pouvoir parler. Est-ce que c'est une bénédiction de pouvoir prier? S'il y avait un muet ici, j'aimerais qu'il puisse, d'une façon, bien sûr, ne soyons pas incorrects. S'il y avait un muet ici, j'aimerais bien qu'il nous dise, la première chose qu'il ferait, c'est retrouver la parole. D'après vous, qu'est-ce qu'il dirait sur un papier? Qu'est-ce qu'il ferait? Un muet qui retrouverait l'usage de la parole. Quelle est la première chose qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il nous écrirait sur un papier? Ben, il dirait, moi, la première chose que je ferais, c'est que j'irai dans l'église et j'élèverai ma voix. Vous pensez qu'il le ferait? C'est une grâce d'avoir la voix. Nous, c'est tellement, on l'a depuis tout petit. Mais mes frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir une bouche pour parler. C'est une grande bénédiction. Ça fait partie d'un talent. Vous le comprenez peut-être pas, mais moi, je vous dis que c'est une grâce de pouvoir parler. Les sœurs, vous êtes d'accord? Oui. Chacun a reçu un don particulier. Il y a des dons, il y a toutes sortes de dons. Il y a des dons spirituels, il y a des dons naturels, il y a des capacités, des dispositions de cœur. Dieu peut vous mettre à cœur quelque chose. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Ils peuvent les utiliser également pour Dieu. On l'a vu dans Matthieu 25, il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. 5 à l'un, il peut donner 5 talents à quelqu'un. Pourquoi? Ben parce que la personne, elle a les moyens. Elle a les moyens de faire valoir 5 talents. Ben, l'autre, il n'en donnera que 2 parce que l'autre, ben, elle a les moyens d'en faire valoir que 2. Et d'autres n'en recevront qu'un. Ben, pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont que la possibilité d'en faire valoir 1. Mais si Dieu vous a donné un talent, vous devez le faire valoir. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on est capable. C'est Paul qui dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Et plus loin, il ajoute, il nous a rendus capables. Si on fait quelque chose, on peut le faire charnellement. Bon, ça, il n'y a pas besoin de Dieu. Mais d'une façon générale, si on peut faire quelque chose, notre capacité vient de Dieu. Et personne n'est dispensé de cela. Il faut que ça rentre bien dans la tête et dans le cœur, surtout de tous les frères et sœurs. Nous avons tous quelque chose à faire dans l'Église. Dieu attend de chacun de nous un service. Est-ce que vous en êtes conscient? Dans presque toutes les églises du monde, l'œuvre de Dieu repose sur un tiers à peu près de l'église. Il y a, sur 100 personnes, il y en a 30, 25, 35 qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu. Les autres sont des spectateurs. Et moi, je ne voudrais pas que ça soit le défaut de cette église. Je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons trouver notre place. Que personne ne se mette en tête qu'il est dispensé, qu'il n'a rien à faire pour Dieu. Souvent on entend, mais moi je sais rien, j'ai pas été à l'école, j'ai pas étudié, je suis pas intelligent. Est-ce que, sincèrement, est-ce que vous croyez un instant que Dieu n'appelle que des gens qui ont énormément d'instruction? Est-ce que quelqu'un pourrait le croire un instant? Vous avez vu Pierre et Jean, c'était du peuple, des hommes du peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Sans instruction. Le problème n'est pas l'instruction. Le problème n'est pas l'intelligence. Le problème, c'est l'ouverture du cœur. Ce que Dieu demande, c'est pas... Bien sûr, si on peut faire valoir de l'intelligence, si on peut faire valoir certaines valeurs, etc., c'est pas interdit. Mais ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient ouverts. C'est ça, surtout. La compréhension ne vient pas de l'intelligence. La compréhension, elle vient de l'ouverture du cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? C'est important. Chassons cette idée que l'œuvre de Dieu repose sur quelques-uns. Il y en a des gens qui le pensent. Bon, l'œuvre de Dieu, ça repose sur les anciens. En ce moment, on forme une vingtaine de frères et sœurs pour être des diacres, des diaconesses. Et c'est vrai qu'on se régale à former des frères et sœurs. Mais ne vous imaginez pas un instant que l'œuvre de Dieu repose ou va reposer sur ce groupe, parce que vous ne pouvez peut-être pas assister à ces réunions, mais vous croyez bien que Dieu va vous demander de faire quelque chose. Et je le répète, c'est quelque chose de sérieux. On peut dire, oui, un pasteur peut insister là-dessus. Imaginez-vous que je, pendant 10 fois, 15 dimanches de suite, je vous prêche sur le service. Qu'est-ce que vous diriez au bout d'un moment? Allez, pendant 15 dimanches, je vous prêche sur le service. Vous pourriez dire au bout d'un moment, bon, ça commence à avoir compris. Moi, je connais un pasteur, il m'a posé la question, il y a des problèmes d'argent dans l'église, j'ai prêché 7 fois de suite sur la dîme. Est-ce que j'ai bien fait? Je pense que le problème, ce n'est pas l'argent, c'est la spiritualité dans une église. Le problème de l'argent, ce n'est pas un problème... C'est pas un problème pécunier. Le problème de l'argent, c'est un problème spirituel. Quand les gens sont spirituels, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de leur dire donnez votre dîme. Vous voyez? Et bon, ce pasteur, il a compris une fois, il m'a demandé le conseil après. Mais je pense que on devrait tous se poser la question: quelle est ma fonction dans le corps de Christ? Moi, je veux être heureux sur la terre. Est-ce que vous voulez être heureux sur la terre? Bon, mais quand même. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ben oui, je veux faire ce à quoi Dieu m'appelle et je veux que ça se passe bien quand je passerai devant lui. Est-ce que vraiment vous voulez que ça se passe bien quand vous passerez devant lui? Peut-être que Dieu vous... Les gars là, et les sœurs qui viennent, je leur dis, peut-être que vous assistez à la formation des anciens, ça ne veut pas dire que vous allez prêcher, mais peut-être qu'un frère sera appelé à présenter la Sainte Cène. Est-ce que ça peut être quelque chose que Dieu demande à un frère, de présenter la Sainte Cène? Ben oui, c'est quelque chose que Dieu va peut-être vous demander. Eh bien, faites-le sérieusement. Et ainsi de suite, chacun doit se préparer à faire ce qu'il demande. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Troisièmement, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Il nous faudra le réaliser un jour, j'espère que ce ne sera pas trop tard, qu'il faudra rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Alors regardez bien. On pourrait lire dans Matthieu chapitre 12, alors il y a des versets, il y en a beaucoup quand même. C'est pour ça qu'il faut en parler. Je reviens à cette chrétienne qui me disait « Ne parlez jamais des récompenses, ne parlez jamais des récompenses. » Vous voyez, ça paraissait très humble, mais moi je trouve que ce n'était pas humble du tout. Matthieu 12, 36. Matthieu chapitre 12, verset 36. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Romains chapitre 14, c'est bien de lire ces textes, il faut les lire. Vous pouvez même les surligner, ça vous encouragera à faire les choses pour le Seigneur peut-être. Romains chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions... Soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, il est revenu à la mort afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bon, ça ne peut pas être plus clair. On va faire encore une autre lecture, Hébreux chapitre 4. Si on les met tout ensemble, laissez-moi vous dire que ça fait réfléchir. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Voilà, vous avez trouvé, je le relis. Hébreux chapitre 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, il y a une responsabilité. Cette responsabilité, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas. Ils n'y pensent pas. Et je le dis vraiment. Je fais mon espèce de mea culpa, je le pense vraiment. Je pense que nous, les pasteurs, nous n'avons pas suffisamment enseigné que chacun, on a cette responsabilité. Vraiment, j'ai la responsabilité de vous apporter la parole de Dieu. Vous pensez que c'est sérieux d'apporter la parole de Dieu? Est-ce que c'est sérieux d'apporter la parole de Dieu? Bon, c'est une responsabilité ou c'est juste un plaisir de prêcher? Répondez. C'est quoi le prêcher? Une responsabilité ou juste, tiens, il parle, il est content de parler, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité de prêcher. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cette prédication, si vous la prenez au sérieux, peut avoir comme incidence dans votre vie et vous amener à ce jour, quand vous comparaîtrez devant Dieu, à dire « Mais c'est vrai, il faut que je m'y mette, je vais comparaître devant Dieu, je veux que ça se passe bien, Dieu vous aidera à ce que ça se passe bien, mais c'est une responsabilité. On n'est pas que des enfants bénis du Seigneur. Nous avons une responsabilité. » Et quatrièmement, pour terminer, il y a la rétribution. Il y aura la rétribution des méchants. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est la condamnation. Beaucoup de gens confondent entre le jugement et la condamnation. La condamnation, c'est grave. Ça veut dire que les personnes seront perdues. Quand il est parlé que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec la condamnation. Il y a des gens, ils mélangent tout. Ils pensent que certains chrétiens seront condamnés, etc., etc. Un chrétien qui est vraiment né de nouveau et qui entretient son salut, il ne sera pas condamné. Le jugement des méchants, oui, ça correspond à la condamnation. Mais le jugement de l'Église de Dieu, ça dépend de cette grâce de pouvoir rendre des comptes à Dieu. Il y aura une rétribution des méchants, et il y aura la rétribution des justes. Il y a un travail et il y a une récompense. Alors vous avez vu, dans un texte, il est dit, tu as été fidèle à un peu de choses, hein, reçois... Ah non, on va d'abord dire... Non, autre chose. Quand Dieu dit...
quand il est dit, tu as été fidèle à un peu de choses. Tu as été fidèle à un peu de choses. À entre bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses. Pardon ? Ça fait 55 ans, je ne parle pas pour moi, imaginez quelqu'un qui est converti depuis 55 ans, il y en a parmi nous. Ça fait 55 ans que je sers Dieu. Ça fait 55 ans que je me donne pour Dieu. Et toi, Seigneur, tu dis, tu as été fidèle un peu de choses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela ? Parce qu'il faut quand même l'expliquer. Est-ce que c'est peu de choses, quelqu'un qui est fidèle pendant 55 ans, il se donne, il donne la dîme, il fait des efforts, il travaille pour Dieu. Est-ce que vous, vous dites ça, c'est peu de choses ? Puisque Jésus dit, c'est difficile, hein, puisque Jésus dit, c'est peu de choses. Alors, pour comprendre ce texte, il faut lire la parabole des mines. C'est important ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, regardez avec moi, dans Luc, au chapitre 19. C'est le seul moyen de comprendre cette expression, tu as été fidèle à un peu de choses. Alors, c'est vrai que les chrétiens qui comment dirais-je, sont pas perturbés par les récompenses, ils n'ont pas réfléchi à ça. Mais il faut quand même l'expliquer. Tant mieux si vous n'avez pas, si vous n'avez pas réfléchi, c'est bien. Ça me fait réfléchir, c'est bien. Si vous n'avez pas réfléchi à ça, c'est bien. Luc 19. Il y a des choses, par contre, je ne suis pas content si vous n'avez pas réfléchi. Luc 19. On va lire la parabole des dix mines. On va lire la fin de la parabole des dix mines. Allez, verset 16, verset 15. Lorsqu'il fut de retour, le maître, après avoir été investi de l'autorité royale, fit appeler auprès de lui ses serviteurs, auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle un peu de choses, reçoit le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 mines. » Vous lirez la suite, c'est pas marrant, non pas, par contre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre ces choses. C'est Jésus qui parle. Ça fait partie des récompenses. Il faut que nous le comprenions quand même. C'est très, très, très sérieux. C'est clair que le gouvernement de 10 villes, en comparaison d'avoir fait valoir un talent ou 5, c'est rien du tout. Parce que nous pensons à quoi ? Nous pensons à notre vie sur la terre, le Seigneur va nous reprendre, qu'est-ce qui va se passer après ? Il va y avoir, ou Dieu va nous reprendre parce qu'il va nous reprendre de mort naturelle, ou l'Église va être enlevée, après il va y avoir les noces de l'agneau. Qu'est-ce qu'il y a après les noces de l'agneau ? Le millénium. Pendant 1000 ans, des chrétiens vont régner sur la terre. C'est écrit plusieurs fois ou non ? Donc, le Seigneur enseigne, c'est pas le seul texte, que ceux qui auront été fidèles sur la terre, qui auront fait valoir les talents que Dieu leur avait confiés, régneront pendant le millénium et pendant l'éternité. Et que pendant l'éternité, on va pas buller toute l'éternité, on va travailler. Est-ce que vous savez que, est-ce qu'il est écrit que ses serviteurs le serviront ? Dans l'éternité, nous servirons Dieu. Nous ne nous rendons pas compte, mais c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de récompense. Parce que ça fait le gars, ouais, servir pour avoir des responsabilités dans l'éternité, pour avoir des responsabilités pendant le millénium. Alors de suite, on sort de la grâce, vous voyez ce que je veux dire ? Mais de toute façon, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou non, sur la terre, ce que l'on fait pour Dieu aura des répercussions sur le millénium et aura des répercussions sur l'éternité. Et que si vous avez été fidèle dans les petites choses, Dieu vous en confiera de plus grandes. C'est une loi dans le royaume de Dieu. Ça va très 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 loin cette histoire, puisque Jésus a dit que même si on donnait un verre d'eau froide, un verre, c'est certainement, je pense que ça représente la chose une des choses les plus petites qu'on peut donner. C'est quoi ? Bon, un demi-verre, d'accord ? C'est encore plus petit. Mais mes frères et sœurs, vous en conviendrez, donner un verre d'eau à un chrétien. Parce que des fois on peut juger quelqu'un qui n'a pas d'argent, mettons, il va donner un euro. On peut dire, mais c'est ridicule. Donner un euro. Mais il n'y a que Dieu qui voit. Parce que pour moi, ça va m'être peut-être plus facile de donner, telle somme, mais ça me coûte rien de donner tant d'argent. Mais peut-être qu'une personne va donner qu'un verre d'eau,
Mais ça va être utile, parce que tous ces verres d'eau accumulés, ça peut faire beaucoup de choses. Et il n'y a que Dieu qui regarde, de toute façon. Mais, mes frères et sœurs, moi, la première fois que j'ai lu « Tu as été fidèle un peu de choses », franchement, je me suis un peu de choses, mais le gars qui est fidèle depuis 50 ans, eh bien, c'est pas encourageant. Eh oui, c'est rien du tout. Mais ça veut tout dire. C'est rien. C'est rien à côté de ce que Dieu va vous confier. Alors, c'est pour ça qu'on n'ose pas parler des récompenses. Parce que ça peut faire espèce de pression sur les gens. Voyez ce que Dieu a... Voyez les gens tordus. Les gens tordus, il y en a. Les gens tordus qui peuvent dire, oui, il nous a incités à servir, il nous oblige... Non, je ne vous oblige à rien du tout. Rien. Absolument rien du tout. Parce que, de toute façon, si vous faites quelque chose à contre-cœur, ça va être du foin, de la paille et du chaume. Et quand ça va passer devant Dieu, ça va brûler et ça ne servira à rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en fait, il est dit que les œuvres, nos œuvres, vont passer devant Dieu. Toutes nos œuvres. Tout. Ça va passer. Après vous. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en fait, faites-vous le film que vous voulez. Ça va passer devant vous. Et tout ce que vous aurez fait, tout. Peut-être que ce soir, vous allez téléphoner à une grand-mère. « Ah, mamie, vous n'étiez pas à l'église ce matin. »« Ça va ?»« Oui, ça va. Je ne suis pas venu, j'avais de la famille. »« Ah bon ?» Eh bien, c'est enregistré. Vous allez me dire, « Oh, monsieur Gau, vous exagérez, un coup de fil, n'importe quoi. » Tout ce que vous faites, pour Dieu, de tout votre cœur, c'est enregistré. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que c'est bien que Jésus nous le dit? Ben oui. Tout ce que vous faites, mais on peut le faire sous la contrainte, parce qu'il faut le faire. Moi, je suis persuadé qu'à certaines de mes prédications, c'était du foin. J'en suis sûr. Sûr. Mais certain. Du chaume et de la paille. Dieu, quand ça va passer devant Dieu, je le sais. Je l'ai fait parce qu'il fallait prêcher. Je l'ai fait, voilà. Je ne l'ai pas fait de bon cœur. Je sais qu'il y a des prédications, ça sera du foin. Bon. J'espère que celle-là, ce sera un peu plus précieux. Mais tout ce que l'on fait aura des répercussions dans l'éternité. On n'y pense pas. Alors, d'un côté, c'est bien de ne pas y penser. Parce que ça prouve qu'on n'est pas obsédé par les récompenses. Mais quand même, il faut qu'on soit enseigné là-dessus. Ta mine a rapporté 10 000, reçoit le gouvernement de 10 villes. Mais c'est comme ça que ça se passera. Je ne sais pas comment ça se passera dans le millénium. Nous qui en avons assez de voir comment le monde est géré, vous avez vu comment on est affolé quand on voit comment le monde est géré. Mais pendant le millénium, ce sont des chrétiens ressuscités qui gouverneront les villes. Vous comprenez pourquoi le millénium, ça marchera bien. Eh ouais. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous intéresse ou non? Oui, non, mais ma question, elle est intelligente. Est-ce que ça vous intéresse? Oui ou non? Est-ce que ça dépend du ressort de Dieu, ça? Oui. Mais une chose est certaine, c'est quand même écrit. Et je pense que notre responsabilité, c'est de faire valoir ce qu'on a reçu. On a reçu de l'amour. Il y a l'amour naturel, l'amour humain, l'amour parental, l'amour conjugal, etc. Mais il y a l'amour divin. Est-ce qu'on peut recevoir de l'amour de Dieu? Est-ce que dans la prière, on peut recevoir de l'amour pour aimer notre génération, pour aimer notre président? Est-ce que c'est important d'aimer son président? Eh oui, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Et prier pour lui, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit? Ben oui. Est-ce que Dieu peut nous donner de l'amour pour les autorités de notre pays? Est-ce que Dieu? Ben oui. Eh ben, qu'est-ce que j'aurais fait de l'amour que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je fais de l'amour de Dieu? Ça me permet quand même de prier, c'est vrai. Moi, je vous avoue franchement, quand je vois ce qui se passe au niveau de l'État, des fois, moi, j'ai pas envie de prier. Et pourtant, il faut le faire, parce que c'est écrit. Et quand on le fait de tout son cœur, ça joue sur ça, plein d'incidences. On ne s'en rend pas compte, mais ça a plein d'incidences. Et nous devrions nous poser la question, mais comment je fais valoir la mesure de foi? Tiens donc, la mesure de foi que Dieu m'a donnée. Est-ce que Dieu vous a donné à tous une mesure de foi? Vous en êtes sûr? Oui, c'est écrit. Dieu vous a donné une mesure de foi. Cette foi, la faites-vous valoir ou êtes-vous en train de l'abandonner? Parce qu'il est quand même dit que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des gens, quand on abandonne, bon, la foi, c'est bien, je lis la Bible, mais je ne comprends rien. Il y a des gens, ils sont là. Mes frères et sœurs, la Bible, c'est une bénédiction. Et je vous encourage à participer le 22 juin l'après-midi à cette réunion. On en a une fois tous les 20 ans où un pasteur va vous expliquer la traduction de la Bible. Croyez-moi, il y a des hommes, des frères et des sœurs d'un certain pays en Afrique qui pleurent pour avoir leur Bible dans leur langue. Donc, nous avons la Bible dans notre langue, ça peut communiquer encore plus de foi. Qu'est-ce que j'ai fait de la mesure de foi que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que je fais de la prière? Oh, la prière, le diable fera tout pour qu'on ne prie pas. C'est pas compliqué, il fera tout.
Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de la prière? Tout ça, c'est des talents que je dois faire valoir. On ne se rend pas compte quand vous prenez un quart d'heure et que vous vous mettez à prier pour l'un, pour l'autre. Dieu bénit. Vous le croyez? C'est important de prier. Qu'est-ce que je fais des dons que Dieu m'a donnés? Est-ce que je les fais valoir? C'est important, mes frères et sœurs. Moi, je voudrais, ça c'est peut-être de l'orgueil, je le pense, c'est peut-être une forme d'orgueil. Mais je voudrais que le Seigneur me dise, tu sais, dans l'église où tu as été pasteur, tous les gens ont entendu, entre bon et fidèle serviteur. Bon, c'est de l'orgueil parce que, je veux dire, Jésus, il a formé 12 frères, il y en a un qui n'a pas été si bien que ça, fidèle. Est-ce qu'il a été bien formé, Judas? Est-ce que d'après vous, il a été bien formé? Moi, je pense qu'il a été bien formé. Et pourtant, il a choisi l'amour de l'argent et il s'est suicidé. Ça vous montre que même quand vous êtes très bien enseigné, très bien formé, vous êtes tout le temps libre de choisir. C'est pour ça que je vous dis que c'est une forme d'orgueil, mais il n'empêche que l'on peut tous travailler dans une église à faire en sorte que l'on ressemble aux chrétiens de pas de l'Odyssée, parce que je me suis trompé la semaine dernière, les chrétiens de Philadelphie, qui se sont entendus, mais parce que vous avez gardé ma parole, je vous ai gardé hors de l'heure de la tentation. Et moi, je crois qu'on peut faire valoir. Seigneur, je veux faire valoir le ou les talents que tu m'as donné. Tu m'as donné une voix, eh bien, je vais l'utiliser pour prier davantage. Peut-être pas à l'église. Bon, quand je dis prière, ce n'est pas que la prière à l'église. Parce que certains habitent loin. Mais vous pouvez, pendant qu'on a la réunion de prière, chez vous aussi prier. Est-ce que ça peut être possible? Bien sûr. Ce serviteur, je termine, parce qu'il me reste quelques minutes. Ce serviteur que Jésus a catalogué de méchant, de paresseux. Il représente les chrétiens. Le chrétien qui est fermé au Seigneur. Il veut bien la bénédiction, ça, c'est sûr, tout le monde la veut, la bénédiction. Qui ne veut pas la bénédiction? Je ne parle pas de désirer la bénédiction, ce n'est pas malsain. C'est bien de vouloir être béni. On sait que Dieu bénit, donc c'est pas malsain de vouloir être béni. Mais ce serviteur méchant et paresseux, c'était un serviteur, donc il avait reçu des capacités, une capacité, et le Seigneur lui reproche sa paresse, son oisiveté. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qu'il a. Et je vous assure que j'ai vérifié ça dans plusieurs domaines. Tout ce qui est écrit se vérifie. Peut-être que quelqu'un se trouve ce matin dans l'attitude de ce méchant serviteur. Soyons honnêtes, parce que quand même, bon, je sais très bien que ma prédication s'adresse à ceux qui font valoir les talents. Il y en a dans l'Église qui font valoir les talents. Béni soit le Seigneur. Mais je sais aussi quand même, si le Seigneur m'a mis à cœur cette prédication, que certains sont en danger et ressemblent étrangement à ce serviteur qui n'a pas fait valoir le talent, qu'il a enterré. Et le Seigneur lui dit, mais tu aurais au moins pu le faire valoir un peu, c'est-à-dire le placer à la banque, l'argent. Vous voyez, comme quoi Dieu ne nous demande pas des efforts surhumains, mais au moins de faire un peu, un petit peu quelque chose. Le gars, il s'en serait sorti parce qu'il aurait prouvé quand même qu'il aurait réfléchi à faire quelque chose pour Dieu. Donc, l'assoupissement, la paresse, l'oisiveté, la négligence, tout ça, ce sont des comportements qui nous font ressembler à cet homme. L'ignorance aussi. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre cette prédication pour réagir. Et que, voyez, on a besoin de sortir de l'ignorance. L'aveuglement, il y a des gens, ils sont aveuglés, ils entendent une prédication. 10 minutes après, ils sont à fond sur Radio Nostalgie et ils écoutent autre chose que la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ranimez le don, ranimons le don. Parce que nous allons passer devant Dieu. Je ne sais pas si vous y réfléchissez. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et tout va passer, tout. Il y a des milliers de choses que vous ne vous en souviendrez pas. C'est certain. Quand on accueille dans l'église, vous allez accueillir quelqu'un qui vient pour la première fois. Vous le faites pour le Seigneur. Est-ce que vous accueilleriez le Seigneur s'il venait ce matin pour la première fois dans l'église? Est-ce que vous l'accueilleriez? Comment vous l'accueilleriez, le Seigneur? Est-ce que vous l'inviteriez à manger? Est-ce que ça pourrait vous venir à l'esprit, tiens, de l'inviter au restaurant, de partager une viande grillée avec quelques frites? Est-ce que vous l'inviteriez? Quand on accueille quelqu'un... Non, mais mes frères et sœurs, les récompenses... Moi, j'ai jamais... Vous savez, ça fait 34 ans, ça va faire, qu'on est converti avec ma femme, en septembre. Je n'ai jamais entendu une prédication sur les récompenses. Jamais. Jamais. Et je sais très bien que c'est délicat. Mais quand même, ça vaut la peine d'en parler, mes frères et sœurs. Alors, il y a des projets. Voyez, on forme des stagiaires. Est-ce que c'est bien qu'on ait formé Jérémy, qu'on ait essayé de former Jérémy pendant 4 ans? Est-ce que c'est bien? On a essayé, j'ai essayé. J'ai certainement fait de mon mieux. Il va partir à Saint-Gaudens. Il va faire valoir l'œuvre. Des âmes vont être sauvées. Est-ce que ça vaut la peine? Mes frères et sœurs, Est-ce que Dieu le voit lorsqu'on donne de l'argent pour les pays de l'Est, lorsqu'on donne, Dieu le voit, on le fait dans le conseil d'administration, mais c'est vous qui le faites. Et ça, tout ça, ça va passer devant Dieu. Vous pouvez dire, l'argent, c'est pour ça qu'on demande à chaque réunion de prier pour les offrandes de l'Église. Croyez pas qu'on est tombé dans une religiosité par rapport à l'argent. C'est parce que pour moi, c'est important que tout soit fait de bon cœur. Vous comprenez, mes frères et sœurs, quand on pense à la traduction, quand on donne pour la traduction de la Bible, est-ce que ça vaut le coup que des Africains là-bas perdus en Centrafrique aient leur langue dans leur dialecte? Oh, monsieur Go, pour 20 000 gars là-bas dans une tribu, est-ce que ça vaut la peine d'investir des millions? Eh bien oui, pour une âme. Est-ce que ça vaut la peine pour une âme? Et voyez, on ne calcule pas toutes ces choses parce que nous, on est dans la spiritualité, dans la méga-spiritualité. Mais je suis désolé, la spiritualité, ça passe aussi par des choses super concrètes. Et si nous nous appliquons à ces choses, nous serons bénis. Bien sûr que nous, on aimerait que toutes les filles de la rue qui ont été évangélisées, elles viennent. Il y en a ce matin. Mais est-ce que ça vaut la peine d'acheter des Bibles en bulgare, hein, je ne sais plus en quelle langue on les achète. Est-ce que ça vaut la peine de distribuer des Bibles à toutes les prostituées de Toulouse? Est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr. Quelqu'un pourrait dire, mais vous rendez compte, mais moi je peux vous dire que Dieu le voit. C'est pour cela, c'est vrai qu'en France, c'est un problème ça. Vous voyez, les Africains, souvent leur problème, c'est la superstition. Il y aurait des choses à dire, mais là en France, c'est l'argent. C'est un problème l'argent. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'argent, si on l'explique bien, ça nous permet de dire, mais quand même, ça vaut le coup. De faire valoir, pas que l'argent, mais l'amour, la mesure de foi, la prière, etc., de le faire consciencieusement. Alors, mes frères et sœurs, si vous êtes empêtrés dans la paresse, eh bien, que cette prédication vous aide à en sortir. Si vous êtes empêtrés dans la désobéissance ou dans la négligence, eh bien, que cette prédication, même si elle est imparfaite, vous le savez qu'elle est imparfaite, mais ça ne fait rien, c'est quand même la parole de Dieu. Alors qu'on puisse terminer en disant, Seigneur, on va travailler. Et chacun, parce que la semaine prochaine, on a l'Assemblée Générale, et je voudrais qu'on y soit, qu'on soit sensible à ces choses. Que, bon, c'est bien de le faire, c'est obligatoire. Mais qu'on puisse comprendre la bénédiction de gérer chaque euro comme il le faut. On va prier, on va demander au Seigneur qui nous aide. Si vous faites valoir les dons, eh bien c'est bien, continuez. Si vous les avez enterrés, eh bien ce matin, appliquez-vous.